Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
L'actualité, on en parle.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Avec Jean-Yves Bretot et son invité.
Et pour notre premier rendez-vous de cette semaine dans On s'en parle sur Radio Alpa 107.3 FM et radioalpa.com, nous allons évoquer le harcèlement en milieu scolaire et comment y remédier. Pour s'en parler, je reçois des représentantes qui ont participé il y a quelques semaines à un programme de formation contre le harcèlement scolaire qui a été mis en place au lycée Touchard Washington. Elodie Ekmanian, conseillère principale d'éducation, Coralie Mondin, représentante de parents d'élèves à la FCPE, Léonore Diaz, élève au lycée Touchard de Washington. Et puis nous accueillons aussi pour cet échange Aymeric Desvaux, aujourd'hui adulte. Il nous dira pourquoi les souffrances de harcèlement qu'il a subies en milieu scolaire continuent à avoir des conséquences sur sa vie de tous les jours. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Chaque année, le premier jeudi de novembre, la Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire contribue à sensibiliser élèves, parents et communautés éducatives à la question des violences à l'école. Le harcèlement en milieu scolaire est une souffrance dont les victimes restent souvent silencieuses et cette souffrance est souvent lourde de conséquences. Le harcèlement à l'école fait 700 000 victimes chaque année d'après les données du ministère de l'Éducation nationale. C'est donc devenu un sujet dont s'est emparé l'Éducation nationale, mais aussi les établissements scolaires et les parents d'élèves. Elodie Ekmanian, vous êtes donc conseillère principale d'éducation au lycée Touchard Washington. Votre lycée a mis en place un programme de formation contre le harcèlement scolaire. Il s'agit du programme Sentinelle et Référent. Quel est l'objectif de ce dispositif ?
Alors l'objectif de ce dispositif, c'est de former des élèves. Donc les élèves, c'est ce qu'on appelle les sentinelles, et des adultes. Les adultes sont les référents, d'où le nom dispositif référent et sentinelle. L'idée, c'est de pouvoir lutter contre ce harcèlement ensemble. C'est-à-dire que les élèves sont quand même les premiers en ligne dans ce phénomène. Alors quand on parle de harcèlement, nous on va préférer le terme bouc émissaire, parce que avant le harcèlement, il y a plein de prémices. Et c'est là où notre formation elle arrive, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir repérer les premiers signes pour éviter qu'on arrive justement à des phénomènes de harcèlement. Donc nous, on va repérer les phénomènes de bouc émissaire. Et nos élèves sentinelles, ils sont au cœur des groupes. Parce que finalement, c'est dans le groupe que se crée le phénomène de bouc émissaire. Donc l'élève est le mieux placé pour voir des choses. Les adultes aussi, également, il faut penser à l'espace de la classe, mais il faut penser aussi à tous les autres espaces. La cantine, la cour de récré, les vestiaires du gymnase, tout ça sont des lieux où il se passe beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut penser très très banales, mais qui finalement peuvent avoir des conséquences qui peuvent être graves très très vite.
Voilà, c'est une formation qui a donc eu lieu au sein du lycée. C'était ouvert à quelles personnes ?
Alors cette formation était ouverte à des élèves et des adultes de l'établissement, mais aussi hors de l'établissement, puisqu'en fait c'est très protocolaire, c'est-à-dire que dans notre dispositif, il nous faut 10 élèves qui sont issus de différentes sections. Nous, dans notre établissement, on a la section lycée professionnel, lycée général et technologique, et nous sommes allés chercher des élèves dans les différentes sections. Quant aux adultes, il y avait aussi entre guillemets un cahier des charges. Il fallait à la fois un professeur, un autre personnel de l'établissement, donc moi en tant que CPE. Il fallait aussi une représentante de parents, donc Coralie Mandin, et puis quelqu'un de l'extérieur aussi, mais en lien avec la jeunesse, donc Mamadi Sangaré, et puis Natacha Mouillé, qui est documentaliste dans notre établissement. J'ai oublié Sébastien Quentin, professeur.
Est-ce que cette formation a suscité un vif intérêt, justement, au sein de l'établissement ?
Alors, elle a suscité un vif intérêt. Elle a beaucoup questionné cette formation. Quand on a parlé de ce dispositif sentinelle et référent, il y a à la fois des adultes et des élèves qui étaient partie prenante, et puis d'autres qui étaient un petit peu plus sur la réserve. Donc maintenant, c'est à nous justement de faire connaître ce dispositif sentinelle et référent, et on trouve quand même qu'on a des bons échos là depuis qu'on a fait cette formation. On a des professeurs,
On a une explication sur les réserves, justement ?
J'ai pas forcément une explication sur les réserves. C'est pas, si, peut-être parce que la lutte contre le harcèlement scolaire, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, beaucoup. Et parfois, on a l'impression, dans les établissements, il n'y a rien de concret qui se met en place. Et je pense que c'était vu comme ça, c'est-à-dire, oui, bon, bah, c'est encore une action pour, mais qui ne va peut-être pas aboutir à quelque chose. Je pense qu'il y avait ça derrière.
C'est peut-être aussi que c'est un peu temporaire. Je sais qu'on en parle un peu, parce qu'il y a une journée nationale contre le harcèlement scolaire. Et finalement, on n'en parle qu'une fois par an.
Tout à fait.
Ça peut peut-être jouer aussi. Quoi. Ouais.
Voilà, ça c'était l'intervention d'Emeric Desvaux. Léonore Diaz, vous êtes élève au lycée Touchard Washington. Vous avez participé à cette formation ?
Oui, j'ai participé à cette formation. C'était quand même assez instructif. On a appris plein de choses vis-à-vis des personnes qui se font harceler et aussi vis-à-vis des gens qui harcèlent. Et c'était vraiment très instructif.
Votre rôle, c'est donc de repérer des situations de harcèlement. Comment vous accueillez ce rôle au sein de l'établissement scolaire ?
Et faut pas le voir comme des balances, comme ils disent. Faut pas que les élèves nous voient comme des balances, mais il faut plus qu'ils nous voient comme des gens vers qui ils peuvent se confier, vers qui ils auront confiance, et nous on va pouvoir les aider, on va pouvoir leur montrer le chemin, les montrer aux adultes pour qu'ils puissent par la suite s'en sortir, parce que c'est quand même très compliqué et mine de rien y en a toujours.
Comment vous appréhendez justement ce rôle-là au sein de l'établissement scolaire, vous qui êtes élève?
Je sais pas trop, c'est un peu bizarre parce que ça vient tout juste de se faire, donc pour l'instant on n'a pas vraiment intervenu, donc c'est encore un peu
bizarre.
Ouais.
Coralie Mandin, vous étiez la représentante des parents d'élèves au sein de l'établissement. Vous êtes à la FCPE, qui est une association de parents d'élèves bien connue. Vous avez participé, vous aussi, à cette formation. Qu'est-ce que vous avez vécu, justement, pendant cette formation en tant que parent d'élèves ?
Tout à fait. Alors déjà, elle est animée par Éric Verdier, qui est psychologue communautaire, qui intervient pour le CEDAP, qui est spécialisé sur le harcèlement scolaire. Et l'intérêt, c'est de nous faire comprendre les mécanismes du harcèlement pour pouvoir les défaire.
Vous étiez conscient justement de ces mécanismes du harcèlement ?
Eh bien justement,
vous, en tant que parent d'élève,
beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on sait autour de nous, il y a du harcèlement et on est démunis. On est démunis dans notre cellule familiale si on est concerné ou nos amis sont concernés. On est démunis au niveau du lycée parce qu'on est impliqué en tant que parent d'élève FCPE sur beaucoup de choses, des commissions de discipline. Mais par contre, on n'intervient qu'à la fin si la personne, elle a dit, si l'isolement a été rompu. Et c'est trop tard. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut faire avec ce dispositif, c'est intervenir au moment où le bouc émissaire, il est isolé, il est prisonnier, il est paralysé, il souffre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour l'aider ?
Est-ce que c'est important, justement, que les parents d'élèves soient associés à cette lutte contre ces discriminations au milieu scolaire ?
Alors, c'est très important que tous les parties prenantes participent, parents d'élèves y compris, parce qu'en fait, c'est pas seul qu'on peut aider. Dans une situation, c'est en groupe. Chacun va trouver son rôle. Dans telle situation, il va plus être adapté d'appeler un élève ou d'appeler un référent. Ça peut être un professeur. On a également un personnel de cuisine, Delphine, qui est associée parce qu'elle va pouvoir repérer sur un temps de cantine. On a des CPE qui vont connaître certains élèves, mais qui ne vont pas forcément détecter. Donc la sentinelle va intervenir. On a une personne du CDI donc qui voit interagir les élèves dans d'autres situations, et c'est quand il y a une situation de harcèlement, l'intérêt c'est de pouvoir en parler entre nous, chacun avec notre point de vue, pour pouvoir trouver une solution.
Élodie Ekmanian, c'est un peu compliqué pour les parents de détecter, peut-être au sein de l'établissement scolaire en tout cas, ces situations de harcèlement scolaire. C'est en tout cas les associer à un moment à des décisions ?
Alors oui, de toute façon, on fait toujours en sorte d'associer les parents. C'est compliqué pour les parents de détecter des situations de harcèlement, comme ça l'est parfois nous aussi dans les établissements scolaires. Et dès l'instant où on a repéré une situation de bouc émissaire, bien évidemment que les parents sont associés très vite à la situation. L'objectif, c'est de leur expliquer ce que l'on va faire. Parce qu'évidemment, les parents, ils sont toujours dans la réparation, où ils veulent tout de suite la réparation pour leur enfant, c'est-à-dire qu'elle doit passer systématiquement par la sanction. Alors nous, on leur explique que la sanction, oui, il y a un moment donné, il va falloir qu'on la pose, elle va être là, mais qu'avant ça, il faut aussi qu'on accompagne déjà leur enfant et qu'on voit aussi ce qui se passe, parce que dans ces situations de bouc émissaire, on pense au bouc émissaire, on pense tout de suite au harceleur, que l'on appelle dans notre formation le pervers. Mais on a oublié les autres protagonistes dans l'histoire, ceux qu'on appelle les normopathes. En fait, ces normopathes, c'est quand même la majorité d'une population dans un groupe. Et ces normopathes, c'est ceux qui ont vu des choses, mais qui ne sont pas intervenus, pour différentes raisons, parce qu'eux-mêmes ont peur ou parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et notre intervention à nous, en aidant, en accompagnant le bouc émissaire, c'est d'intervenir aussi auprès de ces jeunes-là pour les faire réagir. Donc il y a déjà tout ce processus-là. Et ça, avec les sentinelles et les référents, ça c'est notre mission première. Le harceleur, on va dire que c'est au-delà, c'est le et après. C'est-à-dire que c'est pas dans notre dispositif qu'on va s'occuper du harceleur. Là c'est moi en tant que CPE, la direction, etc. où on va prendre des mesures, mais aussi on va l'accompagner. La sanction suffira pas. Ça réparera peut-être un petit peu le bouc émissaire. Et encore, le bouc émissaire, parfois, il en veut beaucoup plus à ceux qui n'ont pas agi, qui ont vu, qu'à son propre harceleur. C'est quand même quelque chose de très important. Dans les situations, c'est ce qui revient assez souvent.
Pour revenir au rôle des parents, on évoquait peut-être cette difficulté que les parents puissent interagir parce qu'ils ne sont pas tous les jours au sein de l'établissement scolaire. Mais comment un parent peut déceler que son enfant subit du harcèlement ?
Alors au quotidien, en fait, il y a des comportements à la maison, des comportements qui changent. Alors on sait qu'en période d'adolescence, c'est pas toujours facile de les percevoir, ces changements de comportement, puisque par définition même, l'adolescent est plein de contradictions, plein de changements. Mais il y a des choses qui doivent alerter, et surtout plusieurs signes simultanés. L'enfant qui s'isole beaucoup, alors nous déjà, s'il s'isole beaucoup au lycée, ça nous inquiète, mais s'il s'isole aussi beaucoup à la maison, c'est une inquiétude. Il y a les notes aussi, si on voit les notes baisser d'un coup, alors que jusqu'ici c'était un élève moyen, il manque de motivation pour faire ses activités qu'il avait l'habitude de faire avec envie. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça qui doivent les alerter.
Voilà, on va signaler quand même les quelques causes du début du harcèlement scolaire. Il y a évidemment le début de la puberté. Il y a le fait d'être plus intelligent que les autres. Ça peut faire partie de harcèlement à un moment. Il y a aussi toute la question de l'alimentation autour de l'anorexie, autour de la boulimie. Ça peut être la couleur de peau, la couleur de le cheveu. Ça peut être l'apparence physique avec le poids, la taille, la couleur. Le sexe aussi, l'identité de gens, un garçon par exemple jugé trop efféminé ou une fille jugée trop masculine, ce qui s'appelle tout simplement du sexisme, ou encore de l'orientation sexuelle ou supposée. Est-ce que dans cette vie ensemble entre élèves au lycée Touchard, on observe déjà ce genre de rejet qu'on peut avoir pour l'autre, Léonore Diaz ?
Oui, parce que c'est un lycée qui est... Moi, c'est mon impression à moi. Je ne sais pas si ça va être l'impression des autres élèves, mais moi, personnellement, je ressens ce côté où les élèves qui vont être homosexuels ou même qui vont vouloir changer de sexe, parce que ça arrive, ils ne vont pas s'assumer totalement que dans d'autres lycées. J'ai l'impression que nous, on a un lycée qui n'est pas encore très évolué vis-à-vis de ça. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui s'acceptent pas comme ils sont en fait et c'est quelque chose de dommage parce que il faut s'accepter.
Léonore Diaz, quand vous dites on est dans un lycée, un collège pas tout à fait au fait de ça, c'est qui est pas au fait? Ce sont les élèves, c'est le corps enseignant?
Je pense que ça va être les élèves plus. Les enseignants après ils sont beaucoup d'enseignants donc on les connaît pas tous. Mais je pense que les élèves sont pas forcément ouverts là-dessus.
Donc ça va être votre rôle peut-être d'intervenir si vous voyez des réactions de rejet par rapport à l'identité d'un élève.
Bien sûr que oui, c'est dans ces moments-là en fait qu'il faut intervenir. Faut pas laisser faire parce qu'après ça va prendre de l'ampleur. C'est quand on voit que ça se produit, faut aller voir, faut pas aller voir le pervers, comme on dit. C'est pas eux qu'il faut aller voir, ça va être les normopathes, ça va être à eux qu'il va falloir leur dire, mais vous trouvez ça normal, vous vous laissez faire, en fait. C'est pas, faut pas les laisser faire, c'est pour ça qu'il faut intervenir.
Est-ce que, en tant que, dans votre rôle de sentinelle, par rapport à cette démarche, c'est simplement votre intervention auprès de l'élève qui serait victime, ou à un moment, vous allez quand même voir un petit peu au-dessus pour que l'administration du lycée se saisisse de cette situation ?
Eh bien, oui, à un moment, on va aller voir. C'est pas nous qui allons voir les personnels du lycée, ça va être l'élève par lui-même qui va y aller. Nous, on va juste l'accompagner s'il veut, lui dire, bah, écoute, si tu veux, moi je vais t'accompagner, on va t'aider, et si on voit qu'il a du mal, là on va pouvoir référer au référent, on va pouvoir leur dire, bah, essayez de faire attention à cette classe-là, à ce groupe-là, on a l'impression qu'il y a un élève sans dire de prénom, sans dire quoi que ce soit, parce que encore une fois, on n'est pas là pour balancer ni quoi que ce soit, mais on est là pour appréhender si plus tard il se passe quelque chose, en fait.
Élodie Aigmagnon, une question que j'ai envie de vous poser, parce que voilà, on a peur que les élèves qui soient des sentinelles soient des balances. Comment l'établissement scolaire protège justement les élèves dans leur rôle au sein du lycée ?
Ah, ça, c'est notre rôle de référent, hein, nous, de faire en sorte qu'ils ne soient pas justement vus comme des balances. Donc l'idée, c'est nous déjà de pouvoir se réunir de façon régulière, référents et sentinelles, pour pouvoir échanger sur les situations, sur ce qu'ils ont repéré, et puis discuter de la façon sur laquelle ils vont pouvoir intervenir, pour que justement ils le fassent de la façon qui soit la mieux interprétée, la mieux, justement, qui ne soit pas vue comme une balance. Et en fait, ce que dit Léonore, c'est ça, en fait, ils doivent repérer, intervenir, référer, et après, en fait, c'est le rire, le R pour repérer, le I pour intervenir, le R pour référer. Et une fois qu'ils ont référé, le et après, c'est ça aussi de ce que l'on discute quand on se voit ensemble aussi.
Coralie Mandin, on parle du rôle des élèves dans l'établissement. J'ai envie qu'on s'attarde aussi au rôle des parents, parce qu'on sait très bien qu'être parent, ce n'est pas toujours simple d'éduquer ses enfants. Bon, ce n'est pas convenu de le dire, mais ça peut être une situation difficile. Comment voyez-vous, justement, vous, en tant que parent et sentinelle au sein du lycée Touchard, le rôle, je dirais, interactif entre les parents, dont c'est le rôle de dénoncer le harcèlement au milieu scolaire, et les parents, dont l'enfant est un harceleur. Comment vous voyez ce rôle-là ? Est-ce que d'abord, c'est un rôle qui vous est attribué ? De discuter entre parents, de situations ?
Alors, il n'y a pas de rôle attribué. Ce qu'il faut, c'est que chaque acteur, dont les parents d'élèves, qui sont en souffrance ou démunis face à la souffrance de leur enfant, s'ils l'ont repéré, puissent contacter la personne adéquate qui va le mieux leur correspondre. Donc les parents d'élèves sont joignables au niveau du lycée, et on est en train d'informer pour que les parents puissent nous contacter. Et ça se fait déjà naturellement dans beaucoup d'établissements, même sans dispositif. Les parents nous interpellaient. Mon enfant est harcelé, je ne sais pas comment m'y prendre, la direction, on ne sait pas ce qu'elle fait de l'information, elle veut... Il y a un conseil de discipline, mais mon enfant doit quand même être déscolarisé ou rescolarisé ailleurs, ce n'est pas à la victime d'être punie. Donc nous, on est joignable, mais on ne savait pas comment faire. Donc là, j'ai informé lors de l'Assemblée Générale de la FCPE, pas plus tard que vendredi. On a mis une boîte mail en place au niveau du lycée pour être contacté, et des affichages pour que les élèves sachent que le dispositif existe. Et il faut que leurs parents sachent également que le dispositif existe, parce qu'on saura les orienter au mieux et les accompagner dans cette souffrance.
Et Élodie Aigmagnon, voilà, il y a une situation qui est identifiée au sein du lycée Touchard-Washington. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, vous convoquez l'élève, vous convoquez les parents, il y a une confrontation, comment concrètement ça se déroule ?
Alors confrontation, non, c'est pas ce qu'on privilégie du tout, au contraire.
Bah, quand je dis confrontation, c'est réunir les deux parties pour discuter du problème, hein. Donc, c'est plutôt comme ça que je vois les choses.
Quand il y a une situation repérée, après tout dépend par qui elle a été repérée, mais si en tant que référent ou en tant que CPE, j'ai une situation dont on me fait part, forcément, très vite, je vais essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe dans le groupe. Parce que, j'insiste beaucoup, c'est quand même un phénomène de groupe. Et il faut toujours penser à agir sur le groupe. Ce que le groupe a abîmé, c'est le groupe qui va le réparer.
Alors comment, justement ?
Alors justement, dès l'instant où on a cette situation, en fonction de la situation, soit on s'entretient avec la victime, ou soit... Peut-être avant de s'entretenir avec la victime, on va aller interroger un petit peu ce que j'appelle les normopathes, c'est-à-dire ceux qui ont vu des choses dans le groupe, qui n'en ont jamais parlé. On essaye de faire le diagnostic un petit peu de ce qui se passe. Pourquoi je dis ça ? Parce que des fois, quand on voit le bouc émissaire en premier, il ne nous dit rien. Il nous dit non, c'est pas vrai. Mais... Non. Il est dans le déni parce qu'il veut surtout pas
en rajouter.
Donc parfois, c'est pas forcément la bonne solution. Alors que quand on commence à aller voir un petit peu ce qui se passe autour des témoins, on commence à avoir des visions des choses qui deviennent un peu plus visibles. Et à partir de là, dès qu'on a commencé à agir un peu sur les normopathes, qu'on a réussi à leur faire dire des petites choses, on peut s'appuyer sur ça aussi pour aller voir notre bouc émissaire en lui disant « Dis donc, là je suis informée, il y a des choses, c'est pas normal, tu vis des choses qui me semblent pas normales, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Tu peux pas rester là-dedans. » Voilà, et après, le harceleur, bien évidemment, à un moment donné, on va aller aussi voir ce qui se passe et puis s'en occuper, bien sûr.
Léonore Diaz, j'avais une question à vous poser. Est-ce que quand on est dans une pratique de harcèlement à l'encontre d'un autre élève, on est conscient de ce qu'on fait ?
Non. Non, parce qu'en fait, quand on harcèle, quand on a le rôle du pervers, en fait, en fait, on essaye de se valoriser, nous, car je pense qu'il doit y avoir un manque de confiance au niveau du pervers, car lui, il harcèle la personne en essayant de se valoriser lui, en essayant de faire rire les autres, en essayant de se montrer toujours, de se mettre en valeur, en fait. Il essaye de se mettre en valeur en dévalorisant quelqu'un d'autre. Donc, en fait, c'est de la jouissance pour lui. Et je pense que... on se rend pas compte qu'on fait du mal aux autres comme ça. Et je pense qu'on a tous ce petit côté pervers de temps en temps, sans le vouloir, sans vouloir être méchant envers d'autres personnes, mais il est toujours présent.
Il y a le cyberharcèlement depuis qui s'impose dans la vie des jeunes. Est-ce que ça complexifie justement, notamment pour les parents et le cadre éducatif qui n'ont pas accès forcément au compte personnel des élèves, tout ce qu'un élève peut à un moment subir comme insulte, comme dénigrement sur son compte social ?
Qui se font harceler. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour nous d'intervenir dans ce cadre-là. Parce que ça peut très bien aller à l'école, en dehors de l'école, mais par contre, sur les réseaux sociaux, ça peut très bien être un peu plus compliqué.
Émeric Desvaux, on réalise trop rarement que le harcèlement peut également avoir des conséquences graves, évidemment des conséquences scolaires, des conséquences sociales, des conséquences physiques, psychologiques à long terme. Vous avez écouté l'échange entre donc une référente éducative du lycée Touchard Washington, une élève, une parente d'élève. Ça soulève quoi chez vous, vous qui avez été victime de ce harcèlement ?
J'ai un peu noué, ça rappelle des souvenirs en fait déjà. Pas des bons. Et puis voilà, effectivement, enfin tous ces mécanismes, j'ai l'impression que de les connaître et de les avoir subis en fait. Et voilà quoi. Et la question que à chaque fois je me pose, c'est effectivement comment on fait pour
Pour s'en sortir?
Bah oui, bon, pour s'en sortir, ça c'est autre chose, quoi. C'est, moi j'ai longtemps refoulé hein, ce truc-là, et avec tout ce que les conséquences que peuvent donner le fait de refouler des sentiments aussi aussi forts. Moi c'est assez récent que j'assume un petit peu plus le fait. J'avais reçu, parce que j'ai, on va dire les choses. Moi j'ai un peu fait des émissions sur Alpa, et j'avais reçu un musicien et on. Je faisais des interviews un peu intimes à l'époque et je lui ai demandé de quoi parler tel ou tel morceau qu'il avait écrit et il m'avait parlé de justement que lui avait été harcelé scolairement et que du coup il disait ma relation à l'autre elle est foutue quoi, enfin voilà, c'est-à-dire que quand je vois des gens, quand je rencontre des gens pour la première fois forcément c'est, l'a priori est négatif etc. Et je me dis voilà, il a un petit peu le courage de l'exprimer machin et vraiment frontalement et j'ai un peu pris comme exemple. Donc il m'a fallu quand même un peu de temps aussi pour prendre, je dirais, le taureau par les cornes. Et de dire bah oui j'ai été harcelé scolaire et c'est voilà et c'est pas facile à gérer et au quotidien c'est compliqué, je vois bien que mon rapport à l'autre est très très complexe. Alors depuis le début de l'année c'est que maintenant que je m'y mets, mais je me fais suivre, donc ça va, les choses je dirais on dénoue les nœuds, voilà, on dénoue les nœuds qui ont été faits il y a 25 ans maintenant, un petit peu plus. C'est difficile, c'est pas simple, c'est un travail de longue haleine, mais voilà, j'espère à un moment donné que ça ira mieux, parce que je me rends compte que mon rapport à autrui, il est, enfin, comme disait mon comparse, il est foutu en l'air, quoi. Ça c'est sûr, hein. C'est d'où une timidité maladive et des fois le contraire, voilà. J'ai pas de juste milieu, c'est compliqué.
Quand on prend conscience hein, que ce qu'on a subi en tant qu'élève, eh bien, ça, on l'emmène encore avec soi en tant qu'adulte. Qu'est-ce qu'on a envie de dire justement à ces personnes, ces élèves qui font du harcèlement en milieu scolaire, quand on a été victime de ça?
C'est pas ça qui te rendra plus intelligent. Voilà, c'est en fait c'est très compliqué parce que moi j'ai subi ça pendant 3 ans. Après on m'a changé de collège et en fait j'ai retrouvé toutes ces personnes-là au lycée et en fait nos rapports ont été beaucoup plus sereins, comme si tout avait été oublié, parce qu'on avait tous grandi entre temps, qu'on se retrouvait au lycée, qu'on était déjà de plus ou moins de jeunes adultes. Donc du coup j'ai pas de sentiment de me dire j'ai envie de leur dire ceci, j'ai envie de leur dire cela. En fait je me rends compte que la situation elle était comme ça et qu'on n'y pouvait pas grand chose. Je pense que personne n'avait l'intelligence ni le recul nécessaire.
Voilà. Est-ce qu'on en parlait à l'époque?
Non.
On n'en parlait pas, hein?
Non, on n'en parlait pas. Voilà, moi je sais que, à un moment donné, j'ai explosé. Quand on parlait de notes qui se sont effondrées, de comportements qui sont partis en couille, bah, c'était mon cas. Et mes parents se sont rendus compte de ça, et là j'ai tout lâché, j'ai tout avoué. Et du coup, on a été voir la direction de l'établissement où j'étais, et voilà, on s'est rendu compte que c'était un sujet tabou, qu'on n'en parlait pas, et en fait, la solution qui m'a été donnée, c'était de changer de collège, quoi.
Voilà, Coralie, on va conclure avec vous. C'est là où il faut que les parents soient vigilants, finalement, à la situation de leurs enfants.
Tout à fait. Une perte d'appétit, une perte de sommeil, des excuses pour ne pas aller à l'école. On peut penser que l'enfant, il se renferme sur lui, mais j'ai appris vendredi par un psychologue, ça peut être tout l'inverse, un enfant timide qui va être surexcité à la maison. Et il faut être très observateur, parce que ça peut être lié à la puberté chez un adolescent, mais ça peut aussi être lié à un harcèlement. Donc, il faut provoquer le dialogue avec son enfant au maximum quand on détecte des choses inhabituelles.
Et puis, on va le dire quand même, c'est aussi une situation de détresse, quelquefois, qui peut conduire à des tentatives de suicide. Donc, soyons vigilants. Merci à vous d'avoir participé à cette émission beaucoup trop courte. On aurait pu développer encore sur beaucoup de choses. On rappelle quand même que pour combattre le harcèlement à l'école, eh bien, il y a plusieurs façons de réagir ou d'intervenir. D'abord, le numéro vert, le 3020, qui est gratuit, anonyme, et qui est un numéro vert d'écoute, de prise en charge, qui est destiné aux enfants, aux jeunes, aux parents et aux professionnels qui sont confrontés à des situations de harcèlement en tant que victimes ou témoins. Il y a un autre numéro vert qui est le 3018, qui est un numéro d'écoute en cas de cyberharcèlement. Et puis, il y a le fil santé jeune, le 0800 235 236, 0800 235 236. Toutes ces informations là vous pouvez trouver sur le site Non au harcèlement. Merci à vous de votre participation à ce sujet social d'actualité. Merci à Will Vienne pour la réalisation technique de cette émission.